Alors bonjour, bienvenue à la quotidienne agricole. Aujourd'hui Emmanuel, bonjour Emmanuel qui nous accompagne maintenant depuis quelques semaines à la vie agricole et qui a eu le privilège de rencontrer Gabriel Attal cette semaine à Montréal. Mmh. Tu pourras peut-être en glisser un mot tout à l'heure avec Jean-Jacques Hervé qui lui aussi a vécu des expériences similaires dans le passé.
Avec plaisir.
Jean-Jacques Hervé qui est notre invité aujourd'hui. Jean-Jacques Hervé, nous on l'a connu lors d'une mission de l'Institut Jean Garon en Normandie en automne 2022. Il a été conseiller agricole en Russie, il a été conseiller agricole en Ukraine. Il était en détachement au ministère de l'économie et des finances, nommé conseiller agricole à l'ambassade de France à Moscou en mars 1997. À la suite de la révolution orange en 2004, il est dépêché en Ukraine par le ministère des Affaires étrangères comme conseiller agricole auprès du gouvernement ukrainien. Donc on s'entend qu'il a bien connu et l'Ukraine et la Russie. À l'issue de cette mission de 4 ans, il est resté à Kiev. Il développe des activités de banque d'investissement du Crédit Agricole Ukraine jusqu'en 2016 avant de créer sa société de conseil. Nous avions assisté à une conférence de Jean-Jacques Hervé qui avait scotché tout le monde, tous les transformateurs qui était avec nous, tous les producteurs et les conseillers en nutrition qui étaient avec nous en France. Il est aussi membre de l'Académie d'agriculture de France, de l'Académie des sciences de Russie, de l'Académie des sciences agraires d'Ukraine. Il est docteur honoris causa de l'Université des sciences du vivant et de l'environnement de Kiev. En 2022, Jean-Jacques Hervé a aussi été élu président de l'Académie d'agriculture de France. C'est tout un gros CV. C'est pour ça qu'on est très heureux, monsieur Hervé, que vous acceptiez encore une fois de nous parler aujourd'hui parce qu'on veut justement faire le point sur la situation géopolitique. Bonjour, monsieur Hervé.
Bonjour. Ça me fait très plaisir d'être avec vous, de vous retrouver par les ondes. Et voilà, et je me tiens à votre disposition pour essayer de m'éclairer une situation bien confuse et bien complexe.
Oui, effectivement. Alors, quand on s'est vu, nous, en 2022, ça faisait 6 mois que la guerre en Ukraine était déclenchée. Là, on est plus de 2 ans après l'invasion russe. Dans un premier temps, quel constat général vous faites de ça, en fait?
Je fais comme beaucoup le constat que le conflit s'installe dans la durée, que manifestement l'Ukraine peine à recevoir l'ensemble de l'armement dont elle aurait besoin pour mieux se défendre de l'attaque d'un pays agresseur qui est la Russie. Et je constate que la Russie, au contraire, dispose d'un flux d'armes constamment disponible, avec des bombardements qui depuis quelques jours, quelques semaines, se sont intensifiés sur toutes les villes qu'elle prétend être siennes, c'est-à-dire de Kharkov à Odessa, en faisant tout le tour de la frontière commune Russie-Ukraine.
Alors vous nous aviez dit aussi...
C'est difficile de pronostiquer
L'issue
militaire. Ouais.
Vous nous aviez dit, lorsqu'on s'était vu en France, que vous aviez des très bonnes connaissances et des amis des deux côtés, et en Russie et en Ukraine. Quels sont les échos que vous avez sur le terrain, vous, de que ce soit de la population en Ukraine ou de la population en Russie?
Alors, je ne peux pas dire que j'ai encore une écoute aussi bonne en Russie, parce que c'est aussi difficile maintenant de contacter les amis, mais je contacte quelques-uns de temps en temps. La Russie ne comprend pas non plus, l'attachement des Américains, des Européens à ce conflit. Elle a beaucoup de mal à comprendre ça, parce qu'au fond, elle est dans une situation de doute sur la sincérité, d'une certaine manière, du modèle occidental. Mais beaucoup de Russes, et notamment de Russes sages, pense que ce conflit est absolument inhumain.
Mais je me souviens aussi.
Quant à l'Ukraine, aujourd'hui, ce qui me paraît préoccupant, c'est le désarroi de soldats qui n'ont pas été relevés depuis 2 ans de leur situation au front, ou alors des petites permissions extrêmement courtes. Et ça, c'est quelque chose de grave, parce que l'Ukraine peine à recruter de nouvelles forces sur une guerre de tranchées. Qui est horrible. Et la Russie peine aussi, mais l'argent semble convaincre des bourriates, des gens des situations, des régions pauvres et éloignées du centre gravitaire de la Russie économique pour monter au front. Ouais. Donc on est dans une situation un peu de déséquilibre en ce moment entre les forces dont l'Ukraine peut disposer pour se défendre et les forces dont la Russie dispose pour continuer d'agresser.
Et vous nous aviez dit aussi, on avait compris dans votre conférence et à vous côtoyer pendant 4 jours en fait en France, que vous êtes un diplomate, vous étiez plutôt sur la voie du dialogue, il me semble, en 2022, 6 mois après la guerre.
Oui,
même je pense que vous disiez, parce qu'après Emmanuel Macron a fait des tentatives, on l'a vu devant la grande table devant Poutine, il a tenté le dialogue. Puis vous trouviez, je pense qu'en 2022, il manquait de connexion en fait encore avec la Russie pour aller vers un ralentissement de l'invasion. Et là, on est où par rapport à ça? Parce que là, tout a changé. La France est devenue beaucoup plus vindicative. Je pense que c'est Stéphane Séjourné qui, encore cette semaine, que la France n'a plus d'intérêt à discuter avec les responsables russes. Ils ont quand même coupé les ponts totalement. C'est l'inverse de ce qui se passait il y a quelques mois encore, en fait.
Oui, c'est assez regrettable. En fait, j'espère, je ne suis pas dans le secret des dieux, j'espère que les autorités françaises veille à ce que toutes les personnes qui ont des relations personnelles avec des responsables russes de niveau intermédiaire sont encouragées à maintenir leurs liens personnels pour que le dialogue puisse se développer peut-être avec d'autres profils que les profils qui assurent l'encadrement de M. Poutine et de Poutine lui-même. Je souhaite qu'effectivement ça se passe comme ça, parce qu'il faudra bien à un moment ou à un autre reprendre le dialogue avec la Russie. On aura beaucoup de mal dans le monde occidental à se passer de la Russie, d'une certaine manière.
Je me souviens que c'est un point que vous aviez développé, effectivement, que le dialogue avec la Russie, qu'au final, le dialogue avec la Russie devra revenir. Vous disiez ça déjà en 2022.
C'est évident, parce que là, si on regarde des sujets tout à fait contingents, comme par exemple la couverture des besoins énergétiques de l'Europe, on a fait le choix d'obtempérer devant l'interdiction par les Russes de vendre du gaz à l'Europe. Et donc on achète maintenant du gaz de schiste américain après qu'on eut copieusement critiqué les méthodes de son extraction et rejeté ces gaz comme dangereux pour l'environnement. Mmh. Donc il y a un moment où il va falloir revenir, notamment dans le cadre d'une réflexion opérationnelle sur le changement climatique, il va bien falloir revenir à un moment donné à gérer une transition énergétique qui, à mon avis, va passer par un peu de gaz, un peu d'électricité nucléaire, un peu, voilà, et donc je pense que la Russie pourrait retrouver une place dans ses relations avec l'Europe.
Dans les réactions actuelles du président Macron, du ministre des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, qui sont plus en retrait vis-à-vis de la Russie, est-ce qu'on peut s'attendre réellement à des réactions violentes, ou de toute façon, Poutine, à votre connaissance, n'ira pas plus loin que ce qu'il a été?
Je ne sais vraiment pas répondre à cette question. Je ne sais vraiment pas répondre à cette question, parce que déjà, je trouve qu'il va déjà très loin. Les bombardements sur Odessa sont quand même spectaculaires. Les bombardements sur Kharkiv, vous vous rendez compte que la ville de Kharkiv, qui faisait à peu près 2 millions d'habitants il y a 3 ans, est aujourd'hui en dessous sans doute un peu en dessous du million d'habitants, et les gens ont fui. Et là, il n'y a pratiquement plus de sécurité d'approvisionnement d'électricité. Les réseaux de chauffage sont détruits. Donc je pense que Poutine va déjà très loin et je ne vois pas ce qui pourrait l'arrêter. Car je comprends que ce qu'il veut, c'est absolument récupérer toute cette zone de frontalière jusqu'à Odessa compris. Voilà. Il a les mêmes raisons que celles de Khrouchtchev qui avait attribué la Crimée à l'Ukraine, parce que la Crimée a besoin essentiellement de l'eau du Dniepr. C'est pas l'eau de Krasnodar qui va alimenter les stations balnéaires de la Crimée. Mmh. Et donc il a besoin de récupérer toute cette zone. Et lui est à l'étroit dans les ports maritimes d'exportation qui sont les siens, c'est-à-dire essentiellement Novorossiysk et peut-être un peu Azov, mais qui sont des ports de fleuves. Ce sont pas des ports ouverts au Panamax, sauf Novorossiysk. Donc il guigne le port d'Odessa et au moins l'un des deux ports qui sont de part et d'autre d'Odessa, Pivdieni peut-être, et donc il a besoin de ça, parce que Poutine, dans l'année dernière, a réussi tout de même à placer sur le marché international des céréales 90 milliards de dollars de recettes. Mmh.
Si on regarde l'actualité des derniers mois et des derniers jours même, depuis l'attaque en Israël le 7 octobre, est-ce qu'on peut imaginer que ça aide, en fait, de certaine façon, la Russie, et encore plus ce qui s'est passé ce week-end où on voit que l'Iran s'attaque à Israël? Finalement, toute cette façon de déstabiliser le secteur Moyen-Orient, est-ce que finalement c'est une recette gagnante pour Poutine? Est-ce que même on pourrait penser qu'il joue un jeu là-dedans, qu'il est meneur de ce jeu-là, en fait?
Pour le moment, moment, il est de fait meneur, et il a, force est de constater que sur le théâtre international, la plupart des pays refusent de condamner la Russie de façon nette. Ni la Chine, ni l'Inde, ni la plupart des pays d'Afrique ne condamnent la Russie. Et vous voyez comme moi que aux Nations Unies, les positions sont extrêmement prudentes pour vis-à-vis de la Russie. Donc je vois au contraire que Poutine active une diplomatie faite de soutien militaire et de soutien agricole. Il est devenu quand même, depuis avant la guerre, il était devenu le premier exportateur mondial de blé. Mmh. Enfin, la Russie était devenue le premier exportateur mondial de blé, et il est en train de devenir un des très puissants exportateurs de denrées agricoles de façon générale.
Mais justement, pour parler d'agriculture, l'impact, parce qu'on avait parlé de l'impact sur l'agriculture 6 mois après la guerre, puis on disait bon, c'était surtout le coût des intrants. Là, c'est quoi la situation réelle de l'agriculture, notamment en Europe et peut-être en Amérique du Nord aussi? Suite au conflit qui perdure.
On va commencer par l'Ukraine qui a fait l'année dernière une de ses plus belles récoltes avec plus de 100 millions de tonnes de grains qu'elle arrive tant bien que mal à exporter avec des grosses difficultés, de très grosses difficultés peut-être d'abord parce que le transit, le simple transit au travers de l'Union européenne a dératé. Des ratés que moi j'attribue à la bureaucratie européenne qui n'a pas vu ce que représentait la mise en place de sillons ferroviaires continus allant de la frontière ukrainienne jusqu'au port de l'océan Atlantique ou de la Manche ou de la mer du Nord pour pouvoir exporter à distance. Donc on a eu l'année dernière une très très belle récolte dont une partie a été exportée, mais dont aussi une partie a trouvé à se développer, à approvisionner les éleveurs polonais, ravis d'acheter des céréales moins chères que celles de leurs propres producteurs céréaliers.
Donc on a une situation. Ce qui déstabilise les marchés européens, en fait.
Qui déstabilise fondamentalement les marchés européens. Oui.
Alors pour aller.
Oui. Ce qui est frappant, c'est que les Ukrainiens aujourd'hui ne réussissent pas à avoir des prix qui correspondent aux cours mondiaux des céréales ou du blé ou du maïs. Le blé se traite aujourd'hui en Ukraine à des producteurs ukrainiens entre 120 et 130 dollars la tonne. Mmh. Et avec 120 ou 130 dollars la tonne, ils réussissent encore à gagner 3 sous. Mmh. Donc ils tiennent en cherchant par tous les moyens à passer les frontières, à exporter. Et heureusement, la voie de la mer Noire a été réouverte plus à l'ouest d'ailleurs, de sorte que les navires empruntent principalement les eaux territoriale de la Bulgarie, de la Roumanie, avant d'arriver dans celle de la Turquie et de l'Union européenne. Voilà, avec un avantage quand même pour sortir par la mer une bonne partie de leur production. Sur les 60 millions de tonnes qui avaient été exportées, c'est les derniers chiffres que j'ai, exportés de la précédente campagne, ouais. Il y en a une douzaine de millions de tonnes qui sont passées par la voie continentale, c'est-à-dire au travers de l'Europe, de l'Allemagne en particulier, de la France et des Pays-Bas, et puis le reste est passé par la mer Noire. Donc le flux de la mer Noire continue. C'est sans doute la raison pour laquelle la Russie tente d'attaquer le port d'Odessa et les deux ports de part et d'autre d'Odessa qui sont les principaux fournisseurs de céréales à l'export.
Mais on peut donc conclure qu'un règlement géopolitique dans ce secteur-là, et notamment en Ukraine, dans l'année 2024, c'est très peu probable. On est parti pour quelques années encore.
Bah pour le moment, on sent une tension extrêmement forte et une détermination très forte de l'appareil exécutif de la Russie, conforté par le résultat dont on peut dire beaucoup de choses, des élections présidentielles. Poutine est de nouveau très fort dans son pays et il n'a pas manifestement affaire à une contestation autre que minoritaire et qu'il s'est oublié.
Du côté du gouvernement français, le fait que des élections européennes arrivent et qu'ils sont obligés d'aller sur le terrain un petit peu de rassemblement national, est-ce que c'est cette qu'on sait assez proche quand même de la Russie, est-ce que c'est pour cette raison peut-être que le gouvernement a un petit peu s'est mis un peu plus sévère avec ses relations russes et va se détendre peut-être après le mois de juin, après les élections européennes?
Je ne sais pas répondre à cette question. Je viens de lire le bouquin d'Emmanuel Todd, qui s'appelle Le déclin de l'Occident, ouais. qui n'est pas très gentil. Vous l'avez sûrement entendu parler de ce livre, pas très gentil pour les États-Unis et pour l'Europe. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas écarter le scénario qu'il dessine d'une victoire de la Russie. Mmh. On ne peut pas l'écarter aujourd'hui. Je crois qu'on ne peut pas l'écarter. Et c'est bien dramatique parce que le peuple ukrainien a quand même fait preuve d'une capacité de résistance absolument exceptionnelle. Mmh. Exceptionnelle. Avec des jeunes au front, avec des inventions extraordinaires. Songez par exemple à la façon dont les Ukrainiens ont su utiliser des petits canaux maritimes, mais vraiment des sortes de grosses barques, quoi, mm-hmm. pour détruire les plus gros paquebots de l'armée russe. Et manifestement, les Ukrainiens n'ont pas dit leur dernier mot sur ce sujet-là. Ils sont en train de travailler aussi sur un certain nombre de solutions innovantes avec les nouvelles technologies où ils sont très forts, très forts. Peut-être même plus forts encore que les Russes. Et donc, il y a une partie de la stratégie qui échappe à la logique des analyses classiques. On voit qu'il y a des forces nouvelles qui se mettent en place, quoi. Hein.
Alors, pour aller sur une note plus heureuse, on a Emmanuel avec nous. Je ne sais pas si elle va vouloir réagir à tous ces propos et cet échange fort intéressant. Mais aussi, je vous le disais un petit peu avant l'entrevue qu'Emmanuel, ou au début d'entrevue, qu'Emmanuel avait assisté cette semaine à la présence de Gabriel Attal à Québec et à Montréal grâce à la collaboration avec le consulat. Puis vous, ça vous rappelle quelque chose parce que dans votre passé, en fait, vous avez déjà couvert des événements, je pense, où c'était Trudeau père, en fait, qui était...
C'était Trudeau père que le jeune pseudo-journaliste de la télé de Templeton à la banlieue d'Ottawa avait eu le droit d'aller interviewer dans les locaux du Parlement d'Ottawa. Oui, ouais. C'est un grand moment pour moi.
Et Emmanuel, un grand moment aussi pour toi?
Ah oui, complètement. Enfin, ça, pour le coup, c'était un grand moment.
Alors, c'est des textes et des entrevues qui sont à retrouver sur lavieagricole.com. Et puis, écoute, c'est un sujet effectivement très, très, très stressant pour beaucoup de gens, ce qui se passe en Ukraine, en Russie, ce qui se passe depuis quelques jours en Israël. On est toujours content d'avoir votre écho et votre vision des choses. Ça nous permet des fois de mieux comprendre. Vous remercie beaucoup, monsieur Hervé.
Je vous en prie. C'était un grand plaisir.
Merci.
Voilà.
Merci beaucoup.
Bonne journée.
Je souhaite longue vie à votre association agricole et à son dynamisme. Et sachez que vous aurez toujours auprès de nous, à l'Académie d'agriculture en particulier, une oreille très attentive. Et parce qu'on apprécie vraiment ce que vous faites. Et puis vos éclairages aussi nous sont utiles pour penser la spécificité du Québec au sein du Canada. Et pour penser aussi à la façon dont les grands enjeux de l'agriculture qui tournent autour du changement climatique et de la diversité écologique vont devoir nous amener à changer pas mal de choses dans notre façon de voir les choses peut-être.
Oui, d'ailleurs, je vous passe le message, le bonjour de Michel Saint-Pierre et Guy de Bailleul, les deux co-présidents de l'Institut que vous avez rencontrés en France, qui m'ont tous deux dit de vous souhaiter le bonjour.
Voilà, grand bonjour aussi à eux.
Bonjour.
Il y a toute la délégation qui est venue et dont je garde avec Jean-Marie Ferroni, avec qui j'évoquais hier une discussion sur l'Arménie, où on était en train de réfléchir au problème de cette agriculture particulière dans les rebords de la Russie. Et donc on pense toujours à vous.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Bonne journée.
Bonne journée.